Si vous voulez, vous tournez avec moi dans le livre de Michée. On va regarder le chapitre 4. Michée chapitre 4. On l'a peut-être pas assez dit, mais le nom de Michée, ça veut dire en hébreu « qui est comme l'Éternel, qui est comme Jéhovah ». Et c'est à la lumière de cette réalisation que personne n'est comme lui que Michée nous écrit. Dans son petit livre, on l'appelle un petit prophète, pas parce qu'il mesurait 1m40, ni parce qu'il n'est pas important, mais simplement parce que le volume de ses écrits est moindre que celui d'Ésaïe, son contemporain, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel, mais ils sont tous aussi importants que ces grands prophètes, entre guillemets. Et ce prophète essaye d'attirer notre attention sous l'inspiration de l'Esprit-Saint qui lui a dicté ces textes. Il nous dit « écoutez, écoutez ». On vit dans une époque où on nous invite sans cesse à écouter, que ce soit les hommes politiques, la publicité, les nouvelles doctrines, les nouvelles philosophies. Écoutez-moi, écoutez-moi, j'ai quelque chose d'important à dire. Là, c'est Dieu qui parle et qui dit à plusieurs reprises « écoutez ». Il le dit au chapitre, au début du petit livre. « Écoutez-vous tous les peuples, sois attentive, terre, avec ceux que tu contiens. » Il veut attirer l'attention de ses contemporains, il veut attirer l'attention des hommes qui ont sa parole entre les mains dans tous les temps. Il va dire au chapitre 3, donc au chapitre 1, avec ce message d'écoutez-vous tous les peuples, il annonçait en fait qu'il y avait un jugement qui arrivait. Un jugement contre les deux nations, les deux royaumes de Samarie et de Jérusalem après la division du royaume de David et Salomon. Le royaume de Samarie, c'était Israël, et le royaume de Jérusalem, c'était le royaume de Juda. Et il expliquait non seulement qu'il y avait un jugement qui arrivait, mais il donnait les raisons de ce jugement. Et les raisons de ce jugement, c'était l'injustice qui régnait, les mauvais plans que les hommes préparent même quand ils sont encore dans leur lit. Et il y allait avoir un jugement terrible. On sait qu'historiquement, ces deux royaumes ont été emportés en captivité. Le royaume de Samarie, du nord, Israël est parti le premier, emporté par les terribles Assyriens. Puis entre-temps, ça c'est en l'an 722 avant Jésus-Christ, et puis en 586, quelques années plus tard, ça a été au tour du royaume du sud de Juda d'être déporté à Babylone. Babylone était devenu l'empire le plus important, avait pris la succession des Assyriens comme l'ennemi le plus terrible de l'époque. Et on pense d'ailleurs que s'il y a eu un décalage, le royaume de Jérusalem, de Juda, est parti un peu plus tard en exil, il avait été visé par les Assyriens, mais il y avait un roi qui avait entendu sans doute le témoignage de Michée et qui avait fait des réformes d'ordre spirituel. Et ça avait sans doute permis au royaume du Nord de ne pas être emporté tout de suite. Parce que Dieu donne toujours, lorsqu'il annonce le jugement, il annonce aussi la promesse il y a toujours un espoir avec Dieu. Lorsqu'il nous reprend, il veut nous reprendre, mais en nous disant que si nous nous repentons, si nous nous reprenons, si nous changeons de voie, si nous revenons à lui en laissant le péché, alors il est un Dieu qui nous accepte de nouveau et de nouveau, et de nouveau. Et il va, au chapitre 3, il va parler d'une sorte de procès des responsables. On peut voir d'ailleurs, oui, ce livre comme un espèce de procès de Dieu contre son peuple et contre la terre entière, mais à chaque fois, toujours garder cet espoir, Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice, il ne veut pas tolérer le péché, mais c'est aussi un Dieu d'amour qui ne veut pas détruire sa création, ses créatures que nous sommes. C'est pour ça qu'il a permis que Jésus prenne notre châtiment à notre place pour que nous soyons au bénéfice de son amour sans que sa justice soit trahie. Le péché est puni, mais il est puni en Jésus-Christ. Si je me mets au bénéfice de cet amour qui offre cette voie de salut, à ce moment-là, je suis restauré dans mon amour dans l'amour de Dieu. C'est comme si je n'avais jamais péché. C'est invraisemblable. Ça n'existe dans aucune autre philosophie, aucune autre religion au monde. Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui pardonne, le Dieu qui aime, qui reste parfaitement juste parce que le péché est puni. Un peu plus loin, c'était au début du chapitre 3, donc il y avait le procès des capitales, Samarie et Jérusalem. Là, au chapitre 3, on a vu la semaine dernière qu'il y avait, avec Tonio, qu'il y avait le procès des chefs, des responsables, des chefs politiques et spirituels. Il commence en effet ce chapitre 3 en disant « Écoutez, chef de Jacob et prince de la communauté d'Israël. » Il les reprend parce que ça serait eux qui, les premiers, devraient faire appliquer la justice, qui devraient être des hommes bons, qui devraient être des hommes qui ont pour souci le bien commun, mais en fait ils sont égoïstes, ils cherchent leur intérêt, ils ont en horreur la justice, il dit même. Et c'est le prophète Ésaïe qui dira dans Ésaïe 5:20 qu'on appelle bien mal et mal bien. On prend les choses et on les renverse complètement, sans égard pour la vérité de Dieu. Et on a terminé le chapitre 3 en disant que c'est pourquoi, verset 12 du chapitre 3, « À cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de ruines, et le mont du Temple, une hauteur couverte de buissons. » Tonio a fait l'évocation qu'en fait, c'était lorsque des voyageurs occidentaux ont vu le mont du Temple en 1818, le mont Moriah, c'était comme une friche. Effectivement, c'était un tas de ruines. Lorsqu'on parle de prophétie, il y a toujours ce problème, c'est presque un problème d'optique. Quand vous voyez une montagne, ou quand on va faire des randonnées, on peut voir le sommet de la montagne au loin, et puis un peu plus près de nous, on voit d'autres sommets. On a l'impression qu'une fois qu'on sera arrivé à ce premier sommet, ça y est, on y sera presque. Et en fait, souvent, on s'aperçoit quand on arrive au premier sommet, il y a encore une vallée qui redescend, et on est loin d'avoir terminé la randonnée ou l'escalade. Les prophéties, c'est un peu la même façon. Il y a un espèce de télescopage dans le temps qui se fait, une même prophétie peut avoir une application immédiate, une application à moyen terme, et puis une réalisation ultime à la fin des temps. Et souvent, lorsqu'on lit les prophètes, on peut être un peu décontenancé parce que on ne sait plus dans quelle vision. Est-ce qu'on regarde la première montagne ou est-ce qu'on regarde la montagne finale? Et là, on va voir, si on fait attention au texte, il n'est pas très compliqué de voir de quoi il est question. Mais lorsque il disait que Sion, c'est souvent utilisé de façon un peu interchangeable avec le mot Jérusalem, parce que ça désignait l'une des collines de Jérusalem. sur laquelle était bâti le temple. Donc souvent, on parle de Jérusalem, on parle de Sion, ce qui a donné d'ailleurs l'expression du sionisme. Le sionisme, c'est la doctrine qui voulait qu'il y ait un repeuplement de la terre d'Israël par les Juifs. Et donc, je voulais simplement préciser que la destruction de Jérusalem a eu lieu en l'an 70. Il y a eu les armées romaines ont envahi la Palestine, ou ce que les Romains ont plus tard appelé la Palestine. Et le mot Palestine, en fait, il vient du mot de Philistin. Et si on appelle cette région du monde aujourd'hui encore la Palestine, par certains, c'est parce que les Romains ont décidé d'humilier les Juifs en appelant cette région du nom de leurs ennemis qui, en fait, occupaient toute une petite partie sur la côte et qui n'ont jamais été vraiment présents à Jérusalem historiquement de façon biblique. Ils ont appelé ça la Palestine. On pourrait penser aujourd'hui à des noms qu'on donnerait à certaines régions pour embêter ceux qu'on a vaincus en disant que ça ne vous a jamais appartenu. Et c'est un peu terrible parce que pas plus longtemps, il n'y a pas plus moins de quelques semaines, le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, auquel nous sommes rattachés par la FEF, qui rassemble un peu tous les évangéliques en France, a dû publier un communiqué le 27 octobre 2016, c'est pas long, et qui dit qu'en fait, Jérusalem, l'UNESCO s'obstine à réécrire l'histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils protestaient contre un texte, une résolution portée par des pays arabes au nom de la protection du patrimoine culturel palestinien, ce qui est une bonne chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, il est clairement indiqué que les Juifs n'ont aucun rapport avec Jérusalem. On voit ce qu'un parti pris négationniste dans un mauvais sens peut faire. Et donc, il y a eu un vote, 24 pays étaient pour, il y a eu 26 abstentions dont la France, à notre grand regret. Et 6 pays ont eu le courage de dire non, c'est ridicule de dire que Jérusalem n'a pas un rapport avec l'histoire juive. Ce soit ces pays, l'Allemagne, l'Estonie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Lituanie et les Pays-Bas. Mais pour dire que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, j'ai toujours frappé par le fait que c'est toujours d'actualité. La carte qui se trouve à l'arrière de votre Bible, c'est la même que vous voyez lorsque vous voyez les nouvelles à la télévision. Jérusalem, c'est toujours un endroit clé pour l'histoire de l'humanité. C'est là que Jésus va revenir. Et c'est intéressant que ce soit ces mêmes Nations Unies. En ce moment, vous avez tous été captivés par les nouvelles qu'on a reçues des États-Unis avec cette élection « surprise », entre guillemets. On est dans la période des slogans. On dit... Alors, je vais changer un petit peu les slogans pour pas dire pour qu'on m'accuse de faire de la politique. Le plus beau, c'est Jojo. Redonnons à notre pays sa grandeur. Tous ensemble. Le changement, c'est pas dans un an. Oui, nous devrions être capables. On voit. Peut-être que vous vous rappelez de certains mouvements politiques ou d'hommes politiques qui ont, pour leur campagne, choisi des slogans. Ce qui est remarquable, c'est que, justement, les Nations Unies, qui ont été créées pour, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer d'éviter la guerre, pour essayer d'éviter les massacres et toute l'horreur de la mort institutionnalisée qui touche non seulement des dizaines, mais des milliers, des millions de personnes, des réfugiés, des déplacés. On imagine mal, lorsqu'on a vécu dans la paix aussi longtemps qu'on l'a fait dans ce pays. Aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire du 13 novembre et des attentats. On voit un peu comment la mort peut faire éruption. Et il y a malheureusement des pays pour qui c'est le quotidien. Mais les Nations Unies qui ont été créées pour justement empêcher que de tels fléaux de guerre se reproduisent, ils ont dû choisir un slogan. Et aujourd'hui, si vous allez à New York, devant le bâtiment des Nations Unies, vous pouvez voir le slogan qui est tiré de notre texte aujourd'hui, du chapitre 4 de la Bible. On va commencer. Je vais lire juste. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des sceptres. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Et donc, il y a cette statue d'un homme qui, avec un marteau, détruit une épée pour en faire un soc de charrue. Très belle sculpture que vous pouvez trouver sur Internet. Et il y a cette citation: ils mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre. Et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Cette citation est gravée dans la pierre devant les Nations Unies. C'est un peu ironique qu'aujourd'hui l'UNESCO, qui est une émanation, qui est une partie des Nations Unies, veuille refuser tout rapport entre Jérusalem et les Juifs. C'est signé sur cette pierre aux Nations Unies, sur l'esplanade des Nations Unies, c'est signé Ésaïe. Alors je vous dis que c'est Michée 4:3. En fait, Ésaïe, si vous regardez au début de son texte, Ésaïe 2, on va commencer, on va lire les quatre premiers versets d'Ésaïe. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. On a chanté ça aujourd'hui. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et puis, voici la citation: ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Lisons maintenant Michée 4, à partir du verset 1. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de l'Éternel, de la maison de l'Éternel, sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrue et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes, de ses figuiers. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu pour toujours et à perpétuité. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. C'est une question parmi les érudits, les chercheurs bibliques, de savoir qui a copié l'autre. Est-ce que c'est... On sait qu'ils étaient contemporains, et peut-être, je le disais, ils avaient un petit déjeuner de prière et ils s'étaient dit, tiens, ça, c'est un bon, je peux te citer. Mais il est fort probable aussi que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré exactement la même chose. Dieu veut nous répéter les choses, il veut nous dire que son idéal, c'est la paix. C'est que... Et là, on voit en fait que si on regarde bien, malheureusement, cette prophétie d'Ésaïe et de Michée, les Nations Unies sont loin d'arriver à la mettre en application. Il y a toujours des conflits de par le monde, des guerres terribles. Même notre pays qui n'a pas de conflit sur place, même si on dit qu'on est en guerre contre le terrorisme, il y a des troupes françaises qui combattent. On dépense un budget énorme de par le monde pour fabriquer des armes, pour vendre des armes, pour entretenir des armées. Là, on voit dans ce chapitre 4, le chapitre 5 parlera du futur roi. Là, il est question du futur royaume qui va arriver. Il arrivera dans l'avenir, c'est une traduction faible dans cette version second 21, c'est dans les temps de la fin, à la fin des temps. L'avenir, ça pourrait être dans 3 ans. Ou... Non, on se projette, là encore. Le prophète, il voit quelque chose, il ne sait pas si c'est tout de suite ou si c'est maintenant ou pour un temps. Il arrivera dans l'avenir que la montagne la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Il parle de la fin des temps. Voyons dans la Bible l'explication d'un jugement qui va venir sur la terre, un jugement de Dieu qui va commencer avec ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. Il en est question dans Matthieu 24, dans l'Apocalypse. Et là, Dieu va remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Il va s'opposer au mal, il va remporter une victoire, il va soumettre toute la terre un règne de 1000 ans. Et c'est dans cette perspective que Michée voit ces choses qu'il nous révèle. Il va falloir monter au sommet des montagnes. Jérusalem est construite est à peu près à 800-900 mètres d'altitude, au-dessus du niveau de la mer. Quand on vient du côté de la mer Morte, qui est dans une dépression, ça fait encore beaucoup plus haut comme impression de monter vers la montagne. Et là, il va y avoir des peuples qui vont affluer à Jérusalem. Le centre du monde, ça ne va pas être Washington, ça ne va pas être Londres, ça ne va pas être Beijing, ça ne va pas être Mossoul. Le centre du monde, ça va être Jérusalem. La ville du grand roi. Et les gens vont s'y rendre en foule en disant « Venons, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Il est question d'un temple rebâti. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Il va nous enseigner ses voies. Il va marcher et nous pourrons le suivre et marcher avec lui. L'idée qui est remarquable, c'est que pour avoir cette sagesse de vie que Dieu veut que nous ayons, il faut d'abord monter vers lui, avoir ce mouvement d'aller chercher la sagesse de Dieu. Et on voit que lorsque on élimine Dieu de l'équation, on peut être tous autant unis, entre guillemets, qu'on le veut. On n'empêche pas les guerres, on n'empêche pas la misère, on n'empêche pas les souffrances de la race humaine. Et là, il voit ce règne futur. Il va revenir au verset 9, il va revenir à son temps. Mais c'est un passage merveilleux qui, avec l'Apocalypse et aussi le livre d'Ésaïe, d'autres prophètes, nous décrit un règne du Messie, enfin quelqu'un qui règne juste, un dirigeant qui mérite le respect de tout le monde. Ce qu'on voit aux États-Unis est triste à plus d'un égard, sans être pour l'un ou pour l'autre, mais de voir qu'en fait, il y a des gens qui sont prêts à attaquer les autres parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Et c'est vrai que si on regarde les dirigeants humains, nous on est appelé à se prononcer dans quelques semaines pour une primaire à droite, après une primaire à gauche. Une primaire à droite, une primaire à gauche. À tous, bon appétit. Non, ça c'est... Excusez-moi. On voit que il n'y a pas d'homme qui soit parfait. Il y a des gens qui ont des valeurs morales, d'autres qui ont des valeurs morales beaucoup moins prononcées, beaucoup moins fortes, beaucoup moins mises en application dans leur propre vie. Mais c'est merveilleux de savoir qu'il y a le Dieu de Jacob. Il va être la parole de l'Éternel, il va juger un grand nombre de peuples, il va être l'arbitre des nations puissantes, lointaines. Israël est un petit pays, restera un petit pays, mais il va avoir une influence incroyable. C'est intéressant d'ailleurs que même aujourd'hui, le petit État d'Israël, le petit peuple des Juifs qui représente je crois 0,1% de la population mondiale a une influence intellectuelle, politique, sans aucun rapport avec sa taille. Près de la moitié des prix Nobel sont allés à des Juifs. Les Einstein, les Freud, les Marx, Karl Marx, tous ces grands intellectuels, alors ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre, mais c'est quelque chose de spectaculaire, qu'en fait une si petite portion de l'humanité ait une influence aussi grande. Mais l'influence la plus grande, bien sûr, c'est celle de Jésus. Et comme j'aime à le répéter, c'est pas parce qu'en eux-mêmes il y avait une valeur intrinsèque qui fait qu'ils ont été choisis par Dieu. Non, Dieu devait s'incarner dans la race humaine et il fallait qu'il trouve un aéroport pour atterrir. Alors c'est une façon un peu sacrilège de voir les choses, mais quand on y pense, Dieu devait s'incarner, il a choisi un homme, Abraham, il en a fait un peuple, et dans la descendance de cet homme, mais c'était pour bénir toutes les nations de la terre. Et le problème des Juifs, c'est justement qu'ils ont gardé cette impression de privilège qu'ils avaient été choisis pour garder les oracles, pour garder leur culture, leur relation avec Dieu pour eux-mêmes en détestant et en méprisant ceux qui les entouraient. Mais c'était jamais le but de Dieu. Et Jésus est venu pour mourir pour les péchés de tous les hommes, des Juifs, des non-Juifs, des païens, et pour amener un beau jour, après la victoire qui sera remportée sur Armageddon contre toutes les nations de la terre qui seront liguées. C'est intéressant d'aujourd'hui qu'on peut être pour tout, mais si on est pour Jésus, alors là on a une opposition très vive, que ce soit en France ou dans d'autres pays. On peut parler du bouddhisme. Et on est bien reçu, mais on parle de Jésus-Christ, on est... Ah ! Jésus provoque une réaction parce qu'il signifie, il est le Dieu vivant qui s'est incarné. Donc les épées seront remplacées, seront transformées en socs de charrue. Les lances seront transformées en serpes pour couper, pour faire de l'agriculture. Plus d'armes pour faire la guerre. Verset 4, ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Il y a certains qui pensent qu'en fait le texte devrait dire « Tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais ils marcheront au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. » Et ça, c'est, je crois, la vérité, c'est que pendant ce règne, les gens vont délaisser leurs idoles, vont délaisser leur fausse religion pour suivre le vrai Dieu. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je rassemblerai les boiteux, je réunirai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. L'Éternel régnera sur eux depuis le mont Sion, dès ce moment et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, citadelle de Sion, à toi reviendra l'ancienne dominauté, la royauté qui appartenait à Jérusalem. Une vision, j'allais dire idyllique, mais une vision qui va venir, qui va être mise en place après la période de la Grande Tribulation, la bataille d'Armageddon, pour ceux qui prennent la Bible comme étant la parole de Dieu. Dieu peut dire ce qu'il veut et il peut vouloir ce qu'il dit. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Il y aura un règne de 1000 ans, à la suite de quoi il y aura une nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais pendant 1000 ans, littéralement, il y aura ce règne et cette paix qui est symbolisée par les gens qui vivent, qui habitent avec leurs vignes, leurs figuiers, leurs petits jardins, qui sont en paix, qui sont bien. On parlait de président. Président américain, on l'a évoqué sans les nommer, mais le 6 juin 1941, le président Franklin Delano Roosevelt, lui, il avait fait 3 termes. Il a été élu 3 fois. Il avait parlé de 4 libertés. La liberté de parole, la liberté de religion, la liberté du besoin, de plus être dans le besoin, et la liberté de la peur, plus être contraint par la peur. Ici, dans ce passage, on voit qu'il y en a deux. Il y a d'abord, il parle de liberté de la peur, et la liberté aussi de manquer, du besoin, la liberté de la peur, c'est que il n'y aura plus personne, verset 4, pour les troubler. La liberté des besoins non satisfaits, c'est que chacun habitera dans ses vignes et avec ses figuiers. Et puis, il y a aussi, verset 2, il va nous enseigner ses voies. Il n'y aura plus d'ignorance. L'ignorance, c'est un terrible handicap pour vivre. L'ignorance spirituelle, c'est un terrible handicap pour vivre, même matériellement. Il va nous enseigner ses voies. Et il y aura aussi la liberté de plus de guerre. On n'aura plus... Et donc toutes ces libertés, elles vont arriver. Et le prophète Michée les voit et se réjouit. Mais il revient, verset 9, pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu pas de roi, plus de conseiller pour que la douleur s'empare de toi comme d'une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. Maintenant de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient souillées, disent-elles, et que nos yeux contemplent la ruine de Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son intention. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'aire de battage. Fille de Sion, lève-toi et foule le grain. Je te ferai une corne de fer et des sabots de bronze, et tu écraseras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège à coups de bâton, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Il revient à son époque. Il dit « Maintenant ». On voit ça, pourquoi « Maintenant pousses-tu des cris ?» Verset 11, « Maintenant de nombreuses nations sont rassemblées contre toi. » Verset 14, « Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. » Et puis il avait dit « Pourquoi maintenant pousses-tu des cris ?» Là, il est revenu et il voit le péril des troupes qui assiègent Juda et qui vont assiéger Jérusalem. Ça va être les Assyriens vont venir, mais ils vont être défaits par un miracle de Dieu où 180 000 Assyriens se tueront entre eux. Et il y aura aussi les troupes babyloniennes qui vont venir emmener Juda en captivité. Et puis en l'an 70, c'est les troupes romaines qui vont détruire Jérusalem. Et donc il a tout ça, c'est pas du lointain futur, c'est pas les temps de la fin, c'est du moment présent. Et il parle du fait qu'en fait, Israël, fille de Sion, lève-toi, je te ferai de toi une corne de fer et des sabots de bronze, et tu écraseras des peuples nombreux. Ça, il repart dans le futur, à la fin des temps, les nations de la terre seront liguées contre Jésus et contre son Église et contre le reste des Juifs qui seront venus à Jésus. Ça, c'est un concept duquel il parlait, verset 7, je ferai un reste. L'idée de prendre parmi les Juifs qui ont rejeté Dieu un nombre pas nécessairement petit de personnes qui vont venir à lui. Aujourd'hui, on connaît les Juifs messianiques, ce sont les Juifs qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Messie attendu par les Juifs. Et donc, on a cette vision de paix, de prospérité, et en même temps, avant cela, il y avait toutes ces souffrances, toutes ces déportations, mais Dieu allait délivrer. À chaque fois qu'il annonce, il passe par ces choses parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Dieu nous parle, il nous dit que lorsque nous nous éloignons de lui, que nous adonnons au péché, nous subissons des conséquences fâcheuses, nous souffrons. La plupart des problèmes sur la surface de la terre, on dit qu'au cœur de chaque problème, il y a un problème dans le cœur lorsqu'on rejette Dieu et qu'on ne cherche plus à lui plaire. Mais là, il va venir, à la fin, il va tout restaurer. Gardons confiance. Et je ne connais pas de meilleur moyen que de garder cette confiance que de rester proche du Seigneur. Même dans les épreuves, on entend parler de l'Église persécutée, de ces chrétiens en Irak qui sont assassinés par les djihadistes. On se demande comment ils peuvent supporter, comment ils peuvent endurer. Et je crois que la seule façon dont ils peuvent le faire, c'est parce qu'ils sont proches de Dieu. Et souvent, lorsque Dieu n'est plus, c'est une Corrie ten Boom, une femme chrétienne qui a souffert les camps de concentration, qui disait « On ne peut pas savoir que Dieu est tout ce dont nous avons besoin tant qu'il n'est pas tout ce qu'il nous reste. » Et nous avons à nous garder du matérialisme et de plein de distractions et de choses qui nous éloignent de penser à Dieu, parce que nous vivons en paix, nous vivons dans un monde où nous avons tous de quoi satisfaire nos besoins physiques élémentaires. Et ça peut présenter le danger, si on n'y fait pas attention, de faire qu'on ne pense plus à Dieu. C'est vrai que Dieu nous parle dans la vie courante, mais qu'il crie dans nos souffrances. Lorsque nous souffrons, nous avons tendance à nous ouvrir à Dieu. Et c'est un peu pour ça que Paul Louis disait qu'en ce moment, il y a un certain accueil de la parole de Dieu que l'on sent. Les gens réalisent qu'il y a autre chose que l'argent, que le petit confort personnel, qu'il y a des choses qui nous dépassent, mais qu'il y a un Dieu qui nous aime. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Tu vois combien elle peut être inquiétante lorsqu'on voit les souffrances auxquelles tu fais allusion pour ceux qui désobéissent. Mais Seigneur, c'est bon de savoir que souvent cette souffrance, c'est pour nous ramener à toi. Nous savons que nous sommes aimés parce que tu nous corriges, tu nous reprends. Et Seigneur, aide-moi, aide chacun de nous, Seigneur, à être prêt à être pris et à nous repentir rapidement de nos mauvaises voies. Seigneur, merci pour le merveilleux espoir que tu donnes à l'humanité. On voit les souffrances et on pense aux familles des victimes de ces attentats à Paris et puis même à Nice. Seigneur, on imagine mal comment les gens peuvent continuer à vivre. Mais toi, tu veux nous donner l'espoir, tu veux nous donner l'assurance que tu nous aimes et que tu pourvois pour nos vies, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Nous prions ces choses par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.